Merci pour la présentation. Donc, la poésie action de Serge Peille, une voix émanant des cultures minorisées, l'exemple de Nyerika. Serge Peille est souvent qualifié de poète chaman. Cette expression fait référence à certaines de ses œuvres inspirées par les expériences qu'il a vécues dans et avec des tribus aux Amériques, et plus particulièrement au Mexique. Nyerika, champ de vision de la contre-montagne, en est certainement le témoignage le plus évocateur. Son processus de création ne se fait pas l'outil d'une appropriation culturelle teintée d'exotisme vendeur, mais au contraire, le porte-voix, témoin d'une écoute attentive de la part du poète de ces cultures minorisées. Nous analyserons ici, à travers son œuvre et son parcours, cette voie poétique à la lumière des concepts que nous fournissent des théoriciens et chercheurs comme Henri Méchonic ou encore Enrique Flores ou Patrick Hillier. Nous suivrons le cheminement suivant. Nous commencerons par une géopoétique du langage et des rencontres, puis continuerons par la création d'une voie poétique hybride. Et enfin, nous conclurons sur la voie des peuples minorisés. Lors de son premier voyage au Mexique, Serge Peille est âgé d'une vingtaine d'années et il est encore en train d'effectuer des études. Donc, premièrement des études d'histoire, puis il fera des études de littérature. Il a fait deux thèses, une thèse d'Ancien Régime en histoire, puis en 1995, beaucoup plus tard, une thèse en littérature. Sa vie s'articule entre Toulouse et le Mexique de 1980 à 1992, quasiment à part égale. Au Mexique, il vit au sein de plusieurs tribus, dont une Huichol, et il fait évidemment des rencontres importantes, et il vit réellement au sein de la tribu, c'est-à-dire qu'il ne va pas par moments assister à certains rituels comme un spectacle, il participe aux rituels, il participe à la vie. Donc, cette tribu Huichole, je rappelle ce que sont les Huichole, j'ai mis quelques éléments et vous avez une carte sur le diaporama. Ce sont des peuples des montagnes de la Sierra Madre Occidentale, donc au centre du Mexique, composé de 5 communautés autonomes, comptant leur propre maracame, donc équivalent de sorciers ou chamans. Cette rencontre avec les peuples originaires du Mexique est liée avec la découverte de la culture et de l'histoire littéraire occitane. Cette découverte, il l'a fait juste quelques années avant de partir et continue à la faire alors qu'il est au Mexique. Il a donc conscience des luttes occitanes mises sous une nouvelle lumière dans les années 1970 avec le lien entre le régionalisme et l'altermondialisme ou la lutte du Larzac, par exemple. Son expérience vécue au Mexique est donc sensible à l'expérience des marges. Cela joue peut-être dans son adoption d'un positionnement décolonial dans son œuvre et ensuite plus tard dans ses textes critiques ou dans ses textes théoriques. Il découvre beaucoup de textes d'auteurs occitans alors qu'il est au Mexique. C'est par exemple là qu'il lit pour la première fois Max Allier, un félibre rouge, qu'il traduira et éditera, traduira en français et éditera en France, à son retour. C'est aussi à ce moment-là qu'il, un petit peu avant, qu'il découvre le catharisme, et donc il est toujours en train de le découvrir au moment où il est au Mexique. Et il fait des rapprochements entre des rituels qui peuvent avoir lieu, qui ont pu avoir lieu en Occitanie, et des rituels qui peuvent avoir lieu et qui ont pu avoir lieu aux Amériques. Rapprochement, bien sûr, toute proportion gardée et sans confondre l'un et l'autre. Dans Les Techniciens du Sacré, Jérôme Rothenberg, qui a été en contact avec Serge Peille, décortique le lien entre le sacré, les cérémonies qu'on peut qualifier de chamaniques chez les peuples des origines de tous les continents, et la poésie. Les conceptions que nous nous faisons, donc je cite Rothenberg, les conceptions que nous nous faisons de la poésie, et singulièrement du poète, se confrontaient désormais consciemment aux anciens et aux nouveaux chamans, caractéristiques de ces civilisations étrangères, non pas pour leur ravir ce titre, mais comme modèle de mise en forme du sens et de l'énergie qui circule par le biais du langage. On en arrive donc à la création d'une voie poétique hybride. L'influence des rituels chamaniques des tribus originaires du Mexique se fait grâce aux liens qu'il a pu nouer avec différents chamans et à l'assistance et la participation aux cérémonies et rituels qui bouleversent sa poésie, mais aussi sa perception du monde. La langue poétique hybride qui naît dans Nielica est celle d'un mélange entre le nahuatl et le français. Il dit d'ailleurs, il écrit « poème traduit du peyotl ». Dans peyotl, il fait le mélange entre le terme « peyote », dont je vais parler juste après, et le mot « nahuatl », donc le nom de la langue. Ces sonorités particulières qu'il développe dans cette langue poétique sont certainement pensées pour l'expérience et l'expression poétique. Elles nous font entrer dans un univers différent et sont une invitation au voyage composée de mots translangue. Translangue entre nahuatl et français, mais aussi translangue, et on va le voir juste après, entre occitan et cette langue, donc translangue entre nahuatl et français. Donc un mélange de 3-4 langues, puisqu'il y a l'espagnol aussi qui rentre en compte. Le peyote, donc, c'est une plante hallucinogène qui est utilisée traditionnellement par les tribus pour entrer en communication avec les esprits. Les célébrations et la prise du peyote sont précédées d'une longue cérémonie de plus de 15 jours au mois d'octobre. La communication d'âme peut se faire autrement que par l'absorption de ces substances, mais c'est un des moyens évoqués et utilisés par les tribus. Sa prise provoque une perturbation des sens, et notamment, ce qui va nous intéresser dans la partie suivante, de la vue et de l'audition. Le sous-titre « Vision de la contre-montagne », qui suggère une inversion, peut être en partie expliqué, et on verra d'autres explications, par cette prise de peyote. Il y a aussi donc un jeu lié à l'occitan, dans le terme peyote. Le jeu entre « pey » et « payant ». Que vous avez écrit à l'écran, est un terme qui désigne un vieux linge, un vieux tissu. Peyote, c'était la personne, peyarot ou le peyote, qui passait dans les cités ouvrières, récupérer les vieux vêtements pour les recycler en chiffon ou en d'autres, pour d'autres utilisations. Et lui, qui est né à la cité de l'Hers à Toulouse, a connu ce peyarot. Il découvre un peu plus tard une autre signification qui est le linge dans lequel on enveloppe un nourrisson. Et il en parle dans son habilitation à diriger les recherches, qu'il soutiendra en 2017. Comment terminer ce texte, maintenant que j'atteins l'orée de mon âge, si ce n'est en me travestissant dans une régression de nouveau-né? La poésie nous y invite. Comme mon nom qui passa jadis de la déformation insultante de peyote en occitan, à peyote, la plante de la métaphysique réalisée chez les Indiens Huicholes. Et quelques années plus tard, je découvris que ce nom était aussi, dans ma langue du Sud, le langage dans lequel on enveloppait un nouveau-né. Le titre de l'ouvrage Nielica se prête lui aussi à questionnement. Le Nielica en nahuatl désigne l'orifice, le trou, par lequel l'âme passe d'un monde à l'autre, d'un pôle à l'autre. De la montagne à la contre-montagne, dans son sous-titre. Cet orifice est une phase de communication, un espace mal défini entre deux réalités. Deux réalités, le double, le thème du dualisme, dualisme qui est mis en avant par Michel Perrin comme l'une des caractéristiques du chamanisme. C'est dans cet espace que se place la création de Pei, et donc un espace qui est à préciser, à définir et à délimiter, avec toutes les difficultés que cela suppose, et c'est une partie de l'objet de mon travail de thèse. Comme l'écrit Henri Méchonic dans La rime et la vie, écrire des poèmes, c'est déjà traduire sa langue maternelle dans une autre. Aucune langue n'est maternelle. Dans le cas de Pei, s'ajoute une double traduction, ou bien ne serait-ce pas justement l'apport des autres langues qui lui permet d'opérer cette traduction vers la langue poétique. Les langues l'habitent, sa pensée, sa poétique résulte de leur synthèse, presque à la manière d'un syncrétisme à l'intérieur de son processus créateur. Dernière petite remarque par rapport au son, et ensuite on va passer à l'image. Le lecteur perçoit, fait l'expérience sensorielle, sonore, de la nature exubérante qui l'entoure. Expérience d'écoute qui témoigne aussi d'une écoute de la part du poète. Là, je vous ai donné un exemple, l'exemple de Mahor. Donc, c'est un long poème qui commence ainsi et qui suit ainsi, avec une disposition typographique particulière. On reviendra sur la disposition typographique plus tard avec un autre exemple. Là, ce que je voulais analyser, c'était plutôt que ça rappelle le cri du corbeau, l'animal dont les symboliques en poésie sont aussi diverses et qu'utilisées, et dont l'une d'entre elles peut être un oiseau associé à la mort. Et donc, Mahor, l'unité entre le son qu'on entend, le cri du corbeau et qui nous renvoie à la nature, et le sens du texte. Serge Pey est aussi plasticien et dessinateur. L'édition de Nierica met en regard des dessins et un texte. Il faut analyser les dessins en rapport au poème, évidemment. Donc, on peut citer parmi les motifs qui reviennent le passage, le trou, les personnages, des chiens, des visages, des mains, des échelles, le feu, le bâton, autant de thématiques qui reviennent dans l'intégralité de son œuvre, qui sont omniprésents dans son œuvre, à la fois dans ses dessins, qui ne sont pas uniquement dans Nierica, mais qui sont dans d'autres œuvres. Et donc, il faudrait pouvoir les analyser en soi. Ce n'est pas l'objet de ma thèse, puisque je n'ai pas de formation en histoire de l'art. Les dessins et les textes sont présentés en regard et fonctionnent un petit peu à la manière de rébus. La disposition texte-image peut faire aussi penser à certains codex dont vous avez un exemple à côté. La disposition typographique, enfin, celle du texte, entre blanc, le blanc associé au silence, et ensuite entre la justification du texte qui n'est pas faite, donc un alignement à droite, donc ça veut dire qu'on a du blanc à gauche, qu'on a une marge à gauche, et qui pourtant le texte est au centre. Donc il y a un jeu typographique entre marge et centre, un jeu avec la marge qui remet l'expression au centre. Cela nous amène donc à parler de la voix de peuple minorisé, puisque on va le voir, le jeu entre les marges et le centre dans son œuvre se fait aussi dans cette dimension-là. Pour définir le mot « peuple », j'utiliserai l'expression de Rancière. Pour qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'appelle le peuple. Il doit en même temps être l'objet sur quoi porte l'activité politique et le sujet de la dite activité. L'influence des luttes des peuples des origines, voulant récupérer leurs terres, leur culture et leurs traditions, est certaine et manifeste dans l'œuvre de Serge Pey. Le rapport à la terre en tant que mère nourricière et non en terre de propriété, le lien donc évident avec la Sierra Madre, elle est occidentale, qui donne en français, si on le traduit, la partie occidentale de la montagne mère, et donc on retrouve des allusions aux batailles, aux combats, comme pour les autres peuples des origines, pour récupérer leurs terres, spoliées par la colonisation, puis par les grands groupes agroalimentaires, pétroliers, miniers. Donc on a parlé typographiquement des marges du poème qui rejoignent celles des marges de la société, et donc la marge du texte est aussi la marge de la société. Et donc quand il remet le texte au centre, quand il remet la poésie au centre, il tente aussi de remettre ces voix qu'on n'entend pas, qui sont silenciées, au centre. Ces positions ne sont pas celles d'un acculturateur. Nous avons déjà évoqué sa sensibilité liée à la connaissance de la minorisation de l'Occitan et de sa culture de son lieu de naissance, puisqu'il est né à Toulouse, d'une mère occitane et d'un père catalan. Plus qu'un acculturateur, il se place dans une fraternité, dans une camaraderie. Elle revient régulièrement dans son œuvre, avec l'Amérique, mais aussi avec la Catalogne. Son engagement se fait aussi sur le terrain politique, en dehors de la littérature, même si évidemment c'est lié, aux côtés de camarades de lutte, par exemple au Nicaragua, dans l'Ejército de Liberación Nacional avec Luis Sepúlveda, ou au Chili avec le MIR. Puis plus tard, une fois qu'il est revenu vivre en France, il apportera son soutien à l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional au Mexique, dès le début de l'insurrection en 1994. Je reviens sur la notion de chamanisme. Elle peut poser question, et le rapprochement entre le poète et le chaman, je l'ai dit, peut poser question. Tous les deux apparaissent dans la conception de Serge Pey comme porteurs de la parole des peuples, et donc c'est la fonction symbolique du poète et la fonction symbolique du chaman qui sont en question. Je citerai pour expliciter un petit peu mon propos et pour le renforcer, Enrique Flores et Patrick Quillier. Hoy hablamos con placer de chamanismo. La civilización de lo global finge interesarse en las prácticas culturales diversas en el momento mismo que hace todo lo posible por engullirlas. Es de buen tono referirse a la figura tutelar del chamán, imaginado a la vez como un sabio, un médico, un sociólogo, un músico y un poeta. Por supuesto, en ese consumo frenético de términos, chamán, chamanismo, chamánico, raros son los que están al corriente de la compleja realidad del chamanismo. Sea a través del conocimiento crítico de los trabajos efectuados durante decenios por los antropólogos y los médicos, o será a través de los testimonios aportados por espíritus curiosos obsedidos, sea a través del contacto directo y prolongado con este o el otro chamán. Enrique Flores et Patrick Quillier classent évidemment Serge Peille, qui a longtemps séjourné au contact des peuples des origines, je l'ai dit, dans la dernière catégorie, celle de l'expression d'une expérience vécue, sensible, via l'oreille chamanique, concept qu'ils développent et référencent tout au long de leur ouvrage. Dans le numéro paru en mai 2021 de la revue littéraire Le Matricule des Anges, Peille explique que pour lui, chaque fois qu'on a un public devant nous, il existe comme un peuple autonome. Cette citation nous donne une vision de sa manière de voir le public ainsi que de sa manière de voir l'écriture. Une vision situationniste du texte et de son interprétation, à l'inverse d'un texte qu'on pourrait qualifier de divertissement. Il s'inscrit dans une démarche, dans son écriture et dans ses actions poétiques, d'éducation populaire. C'est pour lui le poème, l'écriture, le texte qui est un engagement, qui est engagé, qui suggère des questionnements subjectifs chez le lecteur, chez la lectrice. Mais ce n'est pas le poète qui est engagé, c'est le poème. Et il revient régulièrement dessus. En guise de conclusion, je dirais que Serge Peille apparaît donc comme un poète acteur des langues et des cultures entre l'Occitanie et les Amériques. Nous avons vu aujourd'hui l'exemple du Mexique, de sa relation avec les peuples des origines présents aujourd'hui au Mexique, mais nous aurions pu évoquer aussi d'autres pays dans lesquels il a séjourné et sur lesquels il a écrit, le Chili, le Nicaragua, Cuba, les États-Unis ou encore Québec. Son inspiration s'est toujours faite sans volonté de spolier, de s'approprier la culture des tribus dans lesquelles il a séjourné. Elle s'est faite par une écoute attentive, sensible, d'où découle un positionnement décolonial. Nous avons aussi discuté l'appellation de poète chaman, à laquelle nous préférerons celle de poète acteur, qui théorise sans cesse. C'est l'objet, par exemple, de Lèpre à un jeune poète, ou de Poésie Action, son dernier ouvrage théorique très dense, publié en 2018. Et donc, dans lequel je vous invite à puiser toutes les références théoriques qu'il développe. Je terminerai mon intervention en évoquant la difficulté de travailler sur un objet vivant, puisque Serge Peille est vivant, que mon travail se fait à la fois par l'analyse de ses textes, mais aussi par l'analyse d'entretiens que je réalise avec lui. Et donc, évidemment, il faut que j'adopte sans cesse un point de vue distancié. Ce qui m'amène à vous dire que Serge Peille sera à Lyon la semaine prochaine et que du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité pour celles et ceux qui restent à Lyon la semaine prochaine de me poser des questions aujourd'hui et d'éventuellement poser des questions à l'auteur si vous pouvez le rencontrer la semaine prochaine. Je vous mets à l'écran la bibliographie qui correspond à mon intervention et je me tiens à votre disposition pour les questions à la fin de cette partie. Merci pour votre écoute.